Sondez-l'île. Le Centre international d'art et du paysage de l'île de Vassivière propose, chaque année, plusieurs expositions. Désormais, elle s'expose aussi sur les ondes de votre radio, avec un programme en trois temps, intitulé « Sondez-l'île ». Le mix musical, les capsules sonores et la sélection de livres de l'artiste à découvrir à la librairie du Centre d'art.
La Via elle-même est une exposition au Centre international d'art et du paysage du 13 juin au 5 septembre 2021. C'est une exposition collective avec 7 artistes. Isabelle Andriessen, Bianca Bondy, Dora Budor, Tiffen Calmet, Grégory Chatonsky, Rochelle Goldberg, Laure Vignat, sous la direction du commissaire de l'exposition Flora Katz. La Via elle-même est une exposition collective qui se transforme au cours du temps. Les œuvres produites spécifiquement pour le projet sont conçues pour réagir et se modifier en relation avec la vie du site. Sensible, elle compose un organisme fantomatique qui s'anime au rythme de l'île et de ses habitants. Et maintenant, la chronique livre.
Bonjour Gaëlle.
Bonjour Maxime.
Gaëlle de la librairie du Centre d'art de Vassivière. Tu es venue avec, non pas un, mais deux livres aujourd'hui, et un seul auteur.
Alors, deux livres de la sélection attachés à l'exposition La Via elle-même. Cet auteur, c'est James Lovelock, donc, qui est un médecin, cybernéticien et biologiste anglais. Deux livres, donc nous avons La Terre est un être vivant, l'hypothèse Gaïa, paru chez Champ Science, chez Flammarion, et aussi La Revanche de Gaïa, pourquoi la Terre y poste-t-elle, chez Flammarion, collection Nouvelle Bibliothèque Scientifique.
James Lovelock est cybernéticien.
Oui, tu sais ce que ça veut dire?
Ben, je pense qu'il s'occupe de cybernétique, mais j'avoue que je ne l'attendais pas avec des livres avec les titres que tu viens de donner.
D'accord.
Mais je pense que ça m'a l'air loin de la cybernétique. Mais il doit...
Oui, c'est plutôt autour de l'écologie, d'une réflexion sur la planète. La planète qui serait vivante. Donc ça, c'est surtout le thème de « La Terre est un être vivant ». Donc c'est un livre qui a été écrit, qui est paru pour la première fois en 1979, en anglais, et qui a été réédité là en 2017. Donc je souhaitais vous lire un petit peu la préface de Pierre-Henri Gouillon sur la question « Qu'est-ce qu'un être vivant ?» Parce que ça me semblait pertinent par rapport à l'exposition.
Ouais.
L'exposition aussi qui s'interroge sur la Terre comme un être vivant, sur ses mouvements très lents, ses cycles et ses relations avec la matière, avec le fugitif. La Terre est un être vivant. L'affirmation a de quoi surprendre. Comment la comprenez-vous? Elle pose d'emblée une question fondamentale. Qu'est-ce qu'un être vivant? La réponse qu'on y apporte dépend de la façon dont on aborde la biologie. On peut en gros opposer deux grands points de vue. Celui du physiologiste et celui du généticien. Pour le physiologiste, ce qui caractérise le vivant, c'est le métabolisme. Un être vivant absorbe de l'énergie et divers nutriments. Il les utilise pour croître, s'organiser, réguler sa composition ou sa température, se déplacer et enfin pour se reproduire. Toute cette activité chimique organisée, ces flux coordonnés de matière et d'énergie, constituent le métabolisme. Et ce métabolisme définit la vie. Pour le généticien, le métabolisme est certes important, mais il n'est que la manifestation de quelque chose de plus profond. En effet, la vie se caractérise par une aptitude singulière à produire des variations quasiment illimitées et à en transmettre une partie de génération en génération. Le fait que ces variations soient transmissibles est dû à l'existence d'une information codée au sein des cellules, dans la fameuse molécule d'ADN. Cette information, reproduite depuis l'origine de la vie, a subi à chaque instant et depuis des milliards d'années ce que Darwin a appelé la sélection naturelle. toute variation héritable est susceptible d'augmenter la survie et où la reproduction de l'individu a été conservée, tandis que celle qui avait l'effet inverse était progressivement éliminée. La sélection naturelle doit alors être vue comme un mécanisme complexe, incluant la variation héritable due à l'information génétique et le processus de tri sur de nombreuses générations. Les formes les plus performantes dans le milieu où elles se trouvent. Dans ce cadre, pour le généticien, un être vivant se définit comme le produit de la sélection naturelle.
Merci Gaëlle.
Donc voilà, c'était un extrait. La Terre est un être vivant, l'hypothèse Gaïa. C'est le tout début de livre par Pierre-Henri Gouillon. Et donc cet extrait me faisait penser à une œuvre dans l'exposition, à celle d'Isabelle Andriessen, qui a installé des sculptures qui créent un métabolisme. Donc c'est celles en fait qui sont en céramique et en aluminium. Non, tu veux.
C'est celles qui sont couplées à un système de refroidissement.
Oui, c'est ça.
Et effectivement.
Il y a une partie donc effectivement qui refroidit la céramique, donc une partie en aluminium qui est branchée sur un moteur et donc il y a un liquide de refroidissement qui circule à l'intérieur et elle vient refroidir la partie en céramique qui par son action suinte du sulfate de fer. Et donc ce sulfate est visible et change de couleur, se cristallise. Et aussi, il faut signaler que la sculpture a une forme organique.
C'est ça, il y a de l'eau qui vient se condenser sur les parties froides, hein, c'est ça, qui vient faire bouger le sulfate.
Oui, c'est ça.
Et ça crée des formes et des qui évoluent. Quoi.
Ben, en fait, ce qui évolue, c'est surtout ce suintement.
Ouais.
Parce que la sculpture en elle-même, enfin, oui. Disons qu'il y a une partie inerte, j'allais dire, mais inchangée. Qui se modifie, enfin, en tout cas dans sa forme globale qui ne bouge pas. Donc c'est celle en céramique et en aluminium. Et c'est plutôt voilà, du liquide qui sort et qui est coloré.
Ça ne va pas former des cristaux ou des choses comme ça?
Si, ouais, il y a des cristaux. Donc voilà, donc c'est... Donc oui, Isabelle Andriessen cherche à animer physiquement les matériaux synthétiques pour leur créer un métabolisme. Donc, les œuvres se transforment par elles-mêmes au contact de l'environnement où elles sont installées. Entre animées et inertes, l'œuvre devient actrice de sa forme et questionne les conditions du vivant. Donc, je vous invite à venir découvrir ces sculptures. Elles sont notamment visibles dans le phare sur l'île de Vassivière. Et c'est un accès libre dans le phare, donc vous pouvez librement aller les voir. Et après, il y en a d'autres dans la partie avec billetterie dans le centre d'art.
Ah, je vais dire un mot sur l'auteur.
Oui.
On parlait de cybernétique, il était cybernéticien. Et c'est vrai que moi, je rapproche ça à l'origine de l'informatique, la cybernétique. Maintenant, c'est lié aussi à la robotique. Mais du coup, regardant la définition, c'est la science des communications et de la régulation dans l'être vivant et la machine. Voilà. Du coup, ce qui explique beaucoup mieux l'extrait que tu as lu tout à l'heure. On comprend mieux ce que c'est. Ce qu'est un cybernéticien.
Merci beaucoup Maxime, parce que effectivement, je ne savais pas trop ce que c'était un cybernéticien, bah, je l'avoue.
Moi, je rattachais ça justement plutôt à la machine, mais en fait, c'est l'étude aussi du vivant.
Ouais, d'accord. Très intéressant, on apprend plein de choses dans cette chronique.
Merci Gaëlle.
Merci Maxime.
Tu es venu avec un deuxième livre de James Lovelock.
La revanche de Gaïa.
Est-ce qu'on a défini ce que c'était Gaïa?
Oui, alors Gaïa, c'est le petit nom de la Terre, attaché à une déesse grecque. Justement, il en parle, si tu veux, au début, mais c'est pas forcément ce que j'avais prévu de lire.
Mais on peut l'évoquer.
On peut. Qu'est-ce que Gaïa? Alors, c'était ta question, Maxime.
Exactement.
Une fine couche sphérique de terre et d'eau entre l'intérieur incandescent de la terre et l'atmosphère qui l'enveloppe. Qui est Gaïa? le tissu interactif des organismes vivants qui habitent cette couche depuis quelques 4 milliards d'années. La combinaison des deux, la façon dont l'un affecte constamment l'autre, a été fort justement appelée Gaïa. C'est, selon James Lovelock, une métaphore pour « terre vivante ». Elle pourrait être fière, la déesse grecque, de l'usage qui est fait de son nom. Cette image a une longue histoire. Les dieux et les déesses incarnaient des éléments naturels, du ciel à la source d'eau vive, et l'idée que la terre est vivante revient souvent dans la philosophie grecque. Léonard de Vinci voyait dans le corps humain le microcosme de la terre et dans la terre le macrocosme du corps. Aujourd'hui, nous savons que notre corps est un macrocosme composé de minuscules particules de vie. Bactéries, parasites, virus, souvent en conflit et plus nombreuses que nos propres cellules. Voilà plus de 400 ans, Giordano Bruno était condamné au bûcher pour avoir soutenu que la Terre était vivante et que d'autres planètes l'étaient sans doute aussi. Le géologue James Hutton considérait la Terre comme un système autorégulé dès 1785. De même, Huxley en 1877. Pour sa part, Vladimir Ivanovitch Vernadsky voyait dans le fonctionnement de la biosphère une force géologique créatrice d'un déséquilibre dynamique qui à son tour favorisait la diversité du vivant. Mais c'est James Lovelock, forgeant l'hypothèse Gaïa, qui a donné une cohérence à tout cela en 1972. Au fil de ses pages, il affine et élargit sa théorie dans des directions nouvelles et pragmatiques. Avec le recul, il est curieux de constater combien l'idée a déplu aux tenants de l'orthodoxie scientifique quand elle fut exposée pour la première fois. Les idées révolutionnaires ont tendance à susciter une opposition d'ordre émotionnel, dénuée de fondement rationnel. Il en fut ainsi de la théorie de l'évolution par la sélection naturelle au XIXe siècle, de la tectonique des plaques au XXe siècle et plus récemment du concept Gaïa. Au début, certains adeptes du New Age ont pris le train en marche alors que des scientifiques tout à fait sensés en sont descendus. Ils y remontent à présent, un changement d'attitude qui est perceptible dans la déclaration publiée à la suite d'un congrès réunissant en 2001 des scientifiques de 4 grands programmes internationaux de recherche sur la planète. Le système Terre se comporte comme un système unique, autorégulé, composé d'éléments physiques, chimiques, biologiques et humains. Les interactions et rétroactions entre ces parties constitutives sont complexes et témoignent d'une variabilité temporelle et spatiale à échelle multiple. Il s'agit bel et bien de Gaïa, et l'objet de ce livre est moins de pointer la menace qui pèse sur elle que de montrer combien l'homme l'a endommagée. De toute façon, Gaïa change et pourrait se révéler moins robuste que par le passé. La chaleur solaire qui atteint la Terre augmente régulièrement, et la capacité d'autorégulation dont dépend toute vie risque d'être mise à mal. L'accroissement de la population humaine, la dégradation des sols, l'épuisement des ressources naturelles, l'accumulation des déchets, les pollutions de toutes sortes, les changements climatiques, l'usage excessif de la technologie et la destruction de la biodiversité, tout cela représente une menace sans précédent pour l'ensemble de l'écosystème planétaire, donc pour le bien-être de l'humanité. Notre population a tellement augmenté qu'elle paralyse visiblement la planète, a écrit Lovelock. Comme dans les maladies humaines, il y a 4 issues possibles. La destruction des organismes pathogènes envahisseurs, l'infection chronique, la destruction de l'hôte ou la symbiose. Une relation durable, mutuellement bénéfique pour l'hôte et l'envahisseur. La question est comment réaliser cette symbiose? Nous en sommes encore loin. Lovelock expose avec verbe les problèmes majeurs que nous rencontrons, la plupart résultant de la révolution industrielle, en particulier de l'usage des combustibles fossiles et des produits chimiques, des pratiques agricoles et de la gestion de l'espace vital. Mais il nous propose un moyen de nous en sortir. Le premier impératif est de reconnaître que les problèmes existent, le deuxième de les comprendre et d'en tirer les conclusions appropriées, le troisième d'agir pour y remédier. Nous sommes aujourd'hui quelque part entre le premier et le deuxième impératif. Voilà, c'est une intro de Crispin Tickle.
Merci, ça nous explique effectivement le concept de Gaïa.
Et de quoi aussi va parler le livre.
Exactement.
C'est encore... c'est aussi un questionnement sur l'état de notre planète. Est-ce qu'elle peut sans cesse accepter tout ce que l'homme lui fait endurer?
Ça, c'est une question où les avis divergent, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais la planète est comme l'exposition au Centre d'art, elle évolue.
C'est ça.
Vers quoi va-t-elle évoluer? Ça, c'est la question qui nous intéresse, peut-être nous, humains, sur cette planète, qu'on puisse continuer à y habiter.
Donc voilà, deux livres que vous pourrez retrouver à la librairie de Vassivière. Deux livres de James Lovelock, « La Terre est un être vivant, l'hypothèse Gaïa », un poche paru dans la collection Chanscience, édition Flammarion, donc pas très cher, 9 euros. Et un livre un peu plus gros, aussi de James Locke, « La revanche de Gaïa, pourquoi la Terre riposte-t-elle » 22,40 €. Et c'est aussi chez Flammarion, collection NBS, Nouvelle Bibliothèque Scientifique.
Et vous trouverez Gaëlle à la librairie pour vous accueillir et vous proposer ses livres à la librairie du Centre d'art. Merci Gaëlle d'avoir été là.
Merci Maxime.